Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Écoutez du Trisac. Cube Radio.
Oh, je la fais-tu, je la fais pas. Même si Nathalie Ouellet est astrophysicienne, ça veut pas dire que c'est une flyée. Non, je peux pas dire ça. Ça se peut-tu? Nathalie, bonjour.
Salut.
Ouais, je suis pas fort, hein. C'est vendredi. Besoin de vacances. OK. On va parler de ce qui se passe dans l'espace et les exoplanètes et tout ce que ça touche. Et là, il y aurait vraiment, Nathalie, on aurait détecté de la vie, quoi, de la vie, un signe de vie possible. C'est pas grand chose, là. Une bactérie, une cellule, quoi, dans le coin de Vénus?
C'est un signe de vie possible. Donc, je sais pas, peut-être que tu as vu des choses passer. C'est fou quand on écrit un article, quand ça passe dans genre la pipeline du journalisme, qu'est-ce qui en ressort après, là, des fois c'est très différent.
Ouais.
Mais bon, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une biosignature. C'est un élément, un gaz, une molécule qui, on pense, aurait été produite par un microbe, un organisme, quelque chose de vivant. Donc, c'est pas la vie qu'on a détectée. C'est comme des signes de vie comme l'oxygène ou le dioxyde de carbone qu'on respirerait. C'est cet équivalent-là. Mais c'est sur Vénus. C'est ça qui est surprenant.
Mais comment... D'abord, excuse-moi, Nathalie, mais comment on peut détecter ça à partir d'ici, là, de la Terre?
Oui, OK. C'est une très bonne question. Donc, on peut utiliser des télescopes avec des instruments spéciaux qui s'appellent des spectrographes. Et ça nous permet d'étudier la lumière des objets. Ça, c'est ça qu'on voit. On voit la lumière de loin. Mais en étudiant le spectre des lumières, il y a des signatures, il y a des lignes dans le spectre qui peuvent être matchées avec des molécules spécifiques.
Mmh.
Donc, si quelqu'un nous regardait de l'extérieur de la Terre, il regardait notre lumière, il serait capable de dire, « Oh là, il y a de l'ozone, il y a de l'oxygène, de la vapeur d'eau, il y a du dioxyde de carbone, etc. » On est capable de faire la même chose avec les autres planètes.
OK.
Donc, c'est ça qu'on a fait.
Puis là,
on a trouvé un gaz qui s'appelle la phosphine.
Et ça, c'est quoi? C'est comme si on avait détecté un PET de cellules?
Oui, j'hésite toujours à le dire parce que ça tombe un peu dans le ridicule, mais c'est pas mal exactement ça. La phosphine, il y en a sur la Terre, mais la seule chose qui crée la phosphine sur la planète Terre, c'est des bactéries. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas processus non biologique qui peut produire de la phosphine en grande quantité sur la Terre.
Okay.
Peut-être qu'il y a un processus chimique, géologique, peu importe, sur Vénus, inconnu, qui l'a créé, mais c'est inconnu. Si on se base sur ce qu'on connaît sur la Terre, il y a des possibilités que ça soit un petit microbe vénusien.
Mais un microbe qui vivrait sur Vénus, c'est un microbe qui serait fait pas mal fort.
Oui, donc c'est pour ça que c'est surprenant. Si je te demandais, OK, on vient de découvrir de la vie dans le système solaire, est-ce que tu devinerais, quelle planète tu devinerais? Peut-être Mars?
Mars, oui.
C'est ça, mais pas Vénus, parce que Vénus, en effet, c'est vraiment intense comme environnement. Si on va sur la surface, la pression atmosphérique est 90 fois plus intense, plus forte que sur la Terre, parce qu'il y a beaucoup plus d'atmosphère là-bas. Donc, tu te fais écraser sur Vénus. En plus, il fait 900 degrés sur la surface. C'est assez chaud pour faire fondre du plomb.
Oui.
C'est vraiment chaud à cause d'un effet de serre vraiment incroyable à cause de l'atmosphère.
Mm.
Et puis, il y a même des pluies d'acide sulfurique.
Oui.
Donc, oui.
C'est pas bon pour la peau, ça.
Non, c'est pas un bon régime de beauté. Mais... si tu vas sur Vénus et tu montes dans les nuages, environ à 50 km de la surface, dans les nuages, il fait 30 degrés, un très confortable 30 degrés. Et l'atmosphère est beaucoup plus légère. C'est encore très acide, mais c'est déjà un peu plus habitable. Donc,
alors,
c'est là où on a spoté la phosphine.
OK, donc quand on a identifié la phosphine à partir de... sorte d'appareil là que je comprends à peu près pas, mais quand même.
Du télescope
finalement là, ça nous dit quoi là? Comment on interprète cette découverte là?
Donc il y a deux possibilités. Soit il y a vraiment des microbes dans les nuages de Vénus qui produisent ce gaz là, et potentiellement Vénus, jadis, il y a plusieurs milliards d'années, ressemblait beaucoup plus à la Terre. C'était plus froid, c'était moins acide. Mm. Donc, peut-être qu'il y avait de la vie sur la surface de Vénus. Mm. Et au fur et à mesure que la planète a évolué et est devenue vraiment intense et hostile, la vie serait montée dans les nuages pour survivre. Donc, c'est possible que ce soit ça. Ou sinon, il y a quelque chose, un processus inconnu qui se passe sur Vénus, qui produit cette phosphine sans forme de vie, mais ça veut dire qu'il y a des choses de la chimie des planètes qu'on comprend encore pas. Donc, mérite vraiment plus d'investigation, plus d'enquête.
OK, que ce soit un scénario ou l'autre, là, c'est vraiment une découverte intéressante. Parce que ça vous force à vous poser des questions de chaque côté. Puis quand on parle de signes de vie, Nathalie, là, faut comprendre qu'on parle souvent de microbes, de bactéries, de cellules, là, pas de trucs qui a des jambes et des pattes?
Non. C'est vraiment de la vie qui est très, très, très simple. Et puis, quand on regarde dans l'histoire de la Terre, la grande majorité du temps où on a eu de la vie sur la Terre, ben, c'était des choses vraiment simples, unicellulaires, même pas des insectes, pas des bébites, vraiment juste des microbes et des bactéries. Mm-hmm. Donc, il y a plus de chances que ce soit la même chose pour les autres planètes.
Mm. Bon, et c'est quoi les autres mondes du système solaire qui pourraient abriter de la vie? Il y en a d'autres, là. On soupçonne d'autres endroits.
Oui, il y en a d'autres et d'autres qu'on soupçonne plus que Vénus, en fait. Donc, on connaît tous assez bien Mars. Mars, déjà, on s'imagine poser les pieds sur Mars et même construire des petites villes là-bas. Et ça, c'est parce que il y a une surface, il n'y a pas de pluie acide. Il fait un peu froid, mais c'est encore tolérable avec le bon équipement. Et puis, il y a aussi de l'eau liquide souterraine dans certaines régions de Mars.
Ah oui.
Et l'eau, c'est très important pour la vie. Donc, Mars pourrait potentiellement en avoir. Mais on peut aller même plus loin dans le système solaire. Autour des planètes gazeuses, Jupiter et Saturne. Peut-être que tu me dis, ben là, il n'y a pas de surface, comment on fait pour vivre là? Mais ces planètes-là ont des lunes super intéressantes. Donc, Saturne a une lune qui s'appelle Titan. Et Titan a des grands lacs de méthane liquide avec une atmosphère et même un climat avec des pluies. Pas d'acide sulfurique non plus. Ça, c'est potentiellement, il y aurait de la vie dans ces lacs-là. Il y a aussi d'autres lunes, Europe et Encelade. Elles, c'est des lunes qui ont une grosse croûte de glace qui recouvre un océan liquide de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Et on a déjà vu dans sur ces mondes-là, il y a des petits volcans qui expulsent de l'eau. Et dans l'éjection des volcans, il n'y avait pas des signes de vie, mais des signes de bouffe pour la vie.
Ah oui.
Donc, c'est ça. On n'a pas spoté les humains, on a spoté la pizza.
Mais est-ce qu'il y a une atmosphère? Parce que s'il y a de l'eau, j'imagine qu'il faut qu'il y ait de la gravité, il faut que ça reste sur la planète.
Titan est la seule lune, le seul satellite naturel dans le système solaire qui a une atmosphère. Donc, lui a une atmosphère, ce qui est super intéressant. C'est pour ça qu'il y a un climat, vraiment. Les deux autres lunes que j'ai mentionnées, elles n'ont pas une atmosphère, mais la croûte de glace peut quand même protéger une forme de vie, de rayons cosmiques qui pourraient endommager la vie.
Ah oui. OK. Donc, mais on ne s'attend pas à avoir de la visite de vaisseau spatial bientôt, là?
Non. En fait, qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est nous envoyer des vaisseaux sur Vénus, sur ces lunes-là, pour voir justement s'il y a des bactéries et des micro-organismes extraterrestres.
Oh, ça, c'est une jolie transition, Nathalie, quand même, là, parce que le mythe de la semaine, c'est... parce que t'as jeté un coup d'œil à la série sur Netflix, Away, là, ou Loin, avec Hilary Swank, que je suis en train de regarder, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'en retiens?
Donc, je l'ai bien regardé, et puis pas tout au complet, je suis rendue à l'épisode 5. Je vais pas trop révéler de punch, mais la science est quand même assez vraie à la réalité, donc ça, je les félicite. C'est sûr qu'il y a un peu plus de drame qui est inséré, mais une chose qui m'a particulièrement...
Attends, c'est parce qu'il faut dire c'est une mission spatiale avec 5 astronautes qui partent pour Mars, là, qui s'en vont, c'est un voyage, on dit que c'est un voyage de 3 ans.
C'est ça, c'est les premiers qui vont poser pied sur Mars. Et 3 ans, c'est le bon échéancier. Probablement que quand ça va arriver, ça va être sur une échelle d'environ 3 ans que le voyage aller-retour va se faire. Et puis, c'est ça, une chose qui m'a vraiment frappée, c'est tout l'aspect humain de la chose. Quand on pense aux astronautes qui vont à la Station spatiale internationale, etc., on a tendance à beaucoup focaliser sur toute la difficulté physique du voyage spatial qu'il y a sur le corps humain. Mais il y a aussi un aspect psychologique qui est potentiellement encore plus un plus grand enjeu que l'aspect physique. Et ça, c'est encore plus vrai sur une longue mission de 3 ans.
Donc, ouais.
Est-ce que t'as remarqué, c'est assez dramatique par moment.
Est-ce que c'est vrai, Nathalie, que sur un voyage vers Mars, ça peut affecter la vision des astronautes, la santé des yeux?
Oui, ça peut affecter la vision. Et en effet, on n'est pas exactement sûr qu'est-ce qui cause ça, si c'est la microgravité ou des rayons cosmiques. Et puis, des fois, il y a aussi des virus qu'on peut avoir en dormance dans le corps. Et une fois qu'on va dans l'espace, en effet, le virus peut genre refaire surface. C'est des choses qui sont encore mal comprises. Mais je dirais que le mythe que je voudrais un peu déboulonner, c'est... ça arrive très tôt dans l'histoire. On peut voir qu'il y a beaucoup de méfiance à l'intérieur de l'équipe des 5 astronautes.
Ouais.
Déjà, dès le début, la commandante n'a pas la confiance de tout le monde, malgré le fait qu'apparemment, ça fait 2 ans que cette équipe s'entraîne ensemble, se prépare. La cohésion d'une équipe dans ce genre de mission, c'est probablement la chose la plus importante. Et donc, j'ai de la misère à croire qu'ils auraient eu un go, allez-y, sachant qu'il y a aussi peu de cohésion dans l'équipe.
Ouais, parce que il y a une astronaute chinoise, il y a un astronaute russe, il y en a un anglais, il y a évidemment la russoine qui est américaine, qui est la commander, et l'autre, je pense, c'est australien ou
indien,
c'est ça. Alors, avant de les réunir, ce que tu me dis, Nathalie, c'est que on aurait vérifié la compatibilité de ces astronautes-là ensemble.
Oui, une partie de l'entraînement des astronautes, c'est vraiment l'aspect psychologique. Ils veulent s'assurer que tout le monde, tout seul, soit vraiment solide et qu'ensemble, en équipe, tout le monde sont prêts à faire confiance aux autres personnes. Vraiment, genre, ta vie est dans la main de tes coéquipiers. Et il faut que tu leur fasses confiance. Donc, la mission n'aurait pas commencé si l'équipe était en si grand désarroi en réalité.
Mais sincèrement, moi, 2 affaires en conclusion, Nathalie. La claustrophobie, là, d'être dans un tube métallique au milieu de nulle part dans l'espace, je capoterais. Et aussi, l'accès à l'eau, je sais pas si t'es rendu à cet épisode-là, mais ça, avoir de l'eau, simplement avoir de l'eau, c'est ça aussi, là, ça crée des angoisses.
Oui, c'est ça. Il faut vraiment être complètement autosuffisant. Tu peux pas dire, oh, OK, il manque de ça, je vais aller au dépanneur. Non, non, non. T'as ce que t'as, puis c'est tout. Donc, ça fait quand même spécial.
Ouais, le dépanneur est loin en désespoir, là. Écoute, on finit la série, puis on s'en reparlera quand on aura fini la série, voir si c'est crédible. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de nous amener à réfléchir à une mission sur Mars qui va, d'après toi, arriver ou pas bientôt?
Je pense que ça va arriver, mais je pense que c'est dans une échelle de peut-être 15 ou 20 ans.
D'accord. Nathalie Ouellet, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Merci.
Salut.
À la semaine prochaine.